Du monde au balcon, et dans la seconde partie de cette émission, nous allons plonger dans un univers de rêves, dans un univers que deux personnages qui sont venus nous voir vont nous conduire. Jean-Luc Le Pogam, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes auteur et notamment pour la série Les Manges Rêves, on va parler du tome 5, Le Miroir du Rat, histoire de reparler de cette épopée des Manges Rêves qui connaît de plus en plus de succès. Et puis Bernard Kermarek est avec nous. Bernard, bonjour.
Bonjour.
Avec quelques sorties BD.
Encore une sélection. Voilà. Difficile à faire devant la production pléthorique des éditeurs de bande dessinée.
Voilà, et avec encore de très belles choses, ce qui nous a apporté nous fait rêver. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Luc Le Pogam, vous êtes né à Brest, donc un made in Bretagne qui se veut très tôt rebelle, hein, j'ai vu ça, très tôt, vous êtes un peu autodidacte, vous partez prendre la mer, vous quittez l'école.
Ah non, j'ai pas quitté l'école de bonne heure, j'étais rebelle, mais je les ai bien emmerdé. Je suis resté quand même longtemps. Non, je suis pas auto. Enfin, non, je suis resté à l'école le temps qu'il fallait, la fac, etc. Mais ça, oui, effectivement, ça, j'ai pris la mer aussi, effectivement. J'ai fait pas mal de petites choses comme ça, ouais.
Et justement, puisqu'on parle BD, l'univers de la BD, vous le connaissez bien.
Oui, parce que j'ai quand même une vingtaine d'années de critique de BD. Je critiquais le boulot des autres avant, ce qui est pas forcément plus facile, mais très différent.
C'est ce qui donne un peu envie un jour de se mettre au travail tout seul.
Ouais. C'est vrai qu'à un moment donné, on se dit bon, ça tente peut-être de t'y mettre, et il suffit après d'une rencontre ou deux, de certaines conjonctions comme ça avec des gens, notamment Jean Fayer. Je faisais partie de l'équipe de Quai des Bulles aussi pendant quelques années, et puis ben voilà, ça permet de rencontrer des auteurs, ça permet de toucher le rêve en fait. Puis un jour, ben on se dit ben, voilà, c'est maintenant quoi. Et je pense que c'est un peu le cas de tout le monde finalement. Il faut qu'il y ait toutes ces choses qui viennent se croiser à un moment précis, à un endroit précis, puis l'âge, et puis voilà, puis un jour ça déclenche, et puis c'est parti. Ouais.
Alors il y a eu des déclencheurs, il y a eu des gens, des rencontres, Yves Simon, des choses comme ça, qui ont croisé.
Ouais, enfin le déclencheur Yves Simon, c'est sa littérature. Enfin d'abord c'est sa musique il y a très longtemps.
Oui.
Enfin non, il y a pas très longtemps, parce que le dernier album Rumeur est sorti il y a 2 ans, je crois. Maintenant.
Seulement, c'est vrai qu'il a plus aujourd'hui. Il est plus du tout comme dans les années 70.
C'est vrai.
C'était vraiment les années Yves Simon. Quoi.
Tout à fait, ouais, c'est quelqu'un que j'ai vraiment beaucoup aimé, ouais. Et que j'ai retrouvé, en fait, quand il a quitté un peu le milieu musical, je l'ai retrouvé dans sa littérature. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément les mots et les livres.
Voilà. Donc ça c'est la passion, l'écriture, et de la BD. Ben on arrive au Manges Rêves, mais c'est pas la première. Hein. Ça a commencé en 2005. L'écriture.
2008 les Manges Rêves. Ouais. Enfin l'écriture a commencé en 2005. Et le premier tome est sorti en 2008, et puis il y en a eu un chaque année quoi.
Alors comment entrer dans l'univers des Manges Rêves? Tout simplement en s'y plongeant. J'avoue que je ne connaissais pas cette saga. C'est le cinquième volume. Et en fait, lorsqu'on a ouvert cette collection, eh bien on dévore, parce que je parlais de bande dessinée. On a l'impression d'être dans la bande dessinée. Alors il faut savoir que c'est une science-fiction, mais qui se passe en Bretagne déjà, hein, parce que il y a des scènes qui nous parlent d'entrain, du Couesnon, de choses comme ça. En revanche, on est passé un peu plus loin dans le temps. Nous sommes sous une dictature européenne, avec une Europe qui a été plongée par cette dictature dans un froid qui dure plus de 6 mois, à -50 degrés, et il y a au milieu de tout ça, eh bien des gens qui résistent et des jeunes. Hein, c'est ça.
Voilà, c'est ça. Ouais, c'est l'idée que je voulais développer, tout en m'adressant aux jeunes, mais aussi en m'adressant à leurs aînés. Et c'est vrai que la dictature, là, elle est vraiment dure. Et quelque part, pour moi, c'est pas de la fiction, c'est avant tout une anticipation. Et pour en revenir à la bande dessinée, en gros, c'est pour ce je voulais évoquer un petit peu. J'ai pris les années 2020-2024 parce que elles sont à la fois assez loin et assez proches pour qu'on puisse rester, pour que j'ai pu planter un décor fiction avec des personnages comme vous et moi aujourd'hui, pour faire encore plus peur. Ouais. En gros, c'est ce qui nous pendonnait dans quelques années si on fait pas aujourd'hui ce que nous adultes on a à faire, et ce que les gens qui votent n'ont à faire aussi s'ils le font pas. Voilà ce qui peut arriver. À mon avis, j'ai poussé un peu loin le bouchon, mais je pense que vu ce qui se passe en ce moment,
on l'a vu récemment.
Il y a des gens qui m'ont dit que je m'étais fait rattraper par l'avance que je m'étais donné quand même.
Ouais. Donc anticipation. Et alors les lecteurs, puisque vous étiez en signature là, dans ce cas, c'est tous les âges, je présume.
Ouais, tout à fait. Ouais. C'est-à-dire que au départ, je m'adressais aux préados dans le Grand Dérèglement, qui est le premier tome de la saga, et j'avais dans l'idée de m'adresser entre les lignes à leurs parents. C'est-à-dire il y a trois codes de lecture, un code de lecture pour les plus jeunes, un code de lecture pour les moins jeunes, et ouais. Un code de lecture pour les encore moins jeunes. Par exemple, quand on parle de la déportation, il est bien évident que nos grands-parents ont une image beaucoup plus proche que la nôtre et que nous, on aura une image beaucoup plus proche de cette déportation que l'auront nos enfants et petits-enfants, etc. Ouais. Parce qu'en fait, ça devient du saupoudrage et on connaît les livres d'histoire, comment ils sont faits. Et donc voilà, l'idée, c'était ça. Ouais. Et pour en revenir à la bande dessinée, c'est vrai qu'il y a des gens qui me disent que c'est du roman sans images, mais toutes les images sont dans l'écrit. Donc ouais, je suis très content. Mais ouais. C'est inconscient, en fait, j'ai pas fait exprès. Je pense qu'après avoir critiqué le travail des autres, comme je le disais tout à l'heure au niveau des dessinateurs de BD, puis de les fréquenter, ça s'est inscrit inconsciemment chez moi, quoi.
Ouais. Et ça coule tout seul, hein. On sent que vous maîtrisez tout à fait, vous nous emmenez avec cette résistance, avec cette citadelle, avec dans l'anticipation, effectivement, des scènes qui rappellent la guerre. On parle aussi, bien sûr, du climat. On parle de tout ce qui est complètement actuel aujourd'hui. On peut parler, évidemment, des événements au Japon aussi, tout ça
ouais,
est lié.
Tout à fait, ouais. Et... Tout à fait. Et puis cette résistance qui se crée de la part des ados qui prennent des villes, ça je voulais absolument, parce que je pense que autant dans cette série qui concerne l'Europe, on peut imaginer que bon, ton mort en fait qui est le Mont Saint-Michel, mais on l'appelle de cette façon, ouais. Qui est le lieu de déportation pour tout l'Ouest, on peut aussi imaginer qu'Auschwitz et Kolnitz et Buchenwald se sont remis en marche, quoi.
Ouais.
Donc c'est très grave, effectivement, mais ça concerne plus les juifs, les tziganes, les homosexuels ou les communistes qui étaient déportés pendant la guerre, ça concerne les artistes, c'est-à-dire que c'est un gouvernement qui a décidé d'éradiquer l'art, d'éradiquer la culture, donc le rêve, d'où le mange-rêve.
Et donc un message d'alarme aussi envers les jeunes aujourd'hui?
Ouais. Tout à fait. Je pense que l'idée, c'est de leur dire que, mais de nous dire aussi à nous adultes, parce que vu le taux d'abstention qu'il y a eu aux dernières élections, on peut quand même se poser beaucoup de questions. On peut en avoir marre, ça c'est clair. On peut aussi manifester dans la rue et on peut comprendre que la colère fasse tout démolir à certaines personnes, ou qu'on l'a vu là récemment encore, mais pas forcément en France. Mais je pense qu'aussi, quand on a le droit d'aller mettre un papier dans l'urne, il faut y aller, quoi. Parce que il y a des gens qui se plaisent à dire que si voter changeait quelque chose, ça se saurait. Bah, je pense que là, ou leur descendre dans la rue si ça changeait quelque chose, on le saurait. Je pense que là, maintenant, on a les preuves avec ce qui vient de se passer dans tous les pays du Maghreb, etc.
Ouais.
Donc, descendre dans la rue, ça sert à quelque chose. Maintenant, on peut aussi voter. Avant.
Voilà, de façon à éviter aussi des morts, ce serait pas mal de réagir d'une façon citoyenne. On va revenir donc avec vous, Jean-Luc Le Pogam, pour le Miroir du Rat et les Mange-Rêves, et puis avec Bernard, on va aussi vous présenter des BD qui seront très très bien chez vous, car elles sont des plus séduisantes. En quelques instants, je reviens juste vers Jean-Luc Le Pogam pour les Mange-Rêves, les personnages, parce qu'on parle de thriller dans la bande dessinée. Là aussi, dans le Miroir du Rat, on voit que les scènes entre les personnages, la trahison, le respect sont des valeurs qu'on trouve tout au long de l'ouvrage. C'est quelque chose qui vous tient à cœur.
Ah oui, complètement. Ouais. Pour avoir été trahi, déjà.
Ouais.
Et puis, bon, je pense que ça fait partie de notre lot de vie, d'être trahi, d'avoir des bons moments et des mauvais. Et oui, le respect, tout à fait, ouais. Parce que c'est important, c'est même primordial. Et puis le droit à la différence aussi. Parce que ça, c'est des choses qui ont tendance à disparaître également. Donc je pense que oui, il faut rester vigilant par rapport à tout ça. Donc c'est pour ça que j'en parle tout au long de la série. Ouais. Et la relation aussi, les connexions entre les intergénérationnels. J'y compte beaucoup. Ouais.
On trouve aussi beaucoup de références à ces fameuses tablettes, tout ce qui arrive aussi dans notre technologie, ça aussi, ça, vous le voyez comment cette façon qui est extraordinaire, bon, il faut l'avouer d'un côté, de communiquer avec le monde. On sait d'ailleurs que les révolutions actuelles passent peut-être par Internet, mais il y a aussi les caméras de surveillance, il y a aussi tout un tas de choses. D'ailleurs, à ce propos, le site Internet est très très bien fait aussi.
Merci.
On donnera l'adresse tout à l'heure pour ceux qui veulent continuer cette émission tout en écoutant le podcast.
J'avoue que j'ai eu beaucoup de chance de tomber sur Jacques Face, ouais, qui était un webmaster absolument extraordinaire, qui m'a dit, parce que bon, c'est quand on ne maîtrise pas du tout cette technique, le meilleur qui puisse vous arriver, c'est de tomber sur quelqu'un qui vous dise « t'imagines, je réalise ».
Ouais.
Et qui rajoute tout est possible. Parce que moi, j'y allais sur le point, la pointe des pieds, que j'ai dit, est-ce que tu crois qu'on pourrait, que, etc., et faire ci, faire ça. Mais il me répondait, tout est possible. En rigolant. Enfin. Ouais, et donc, il a réalisé, effectivement, ce rêve que j'avais,
Ah oui, on est dans l'univers, parce qu'on a, on est même surveillé. Donc, ce côté, aussi, qui apparaît dans les manges-rêves, puisque, évidemment, comme on est un petit peu plus tard, les choses ont aussi évolué, mais, c'est une façon de rapprocher les gens, c'est une façon de les isoler aussi.
La technique du froid, certainement. D'autant plus que dans les tomes précédents, on fait sauter tous les ponts sur les autoroutes pour isoler les gens qui sont... tous les relais sont supprimés. Le froid, ben oui, parce que le froid, ça, quand on a froid, on reste plutôt chez soi, donc on a tendance à... Et puis on voit mal des gens manifester avec par centaines ou par dizaines de milliers, avec de la neige jusqu'aux genoux, avec des panneaux, etc. Donc oui, le climat est géré par ordinateur, et dans le froid, parce que justement, le froid, ça sert aussi à ça.
Ouais. Ça a rien à voir avec nos quelques hivers un peu plus neigeux actuellement en Bretagne.
Ouais, c'est l'idée. C'est vrai qu'on a eu des hivers un peu froids les années dernières, mais en fait, on peut jamais dire si ça vient de quoi. Enfin, je suis pas convaincu que ça vienne du réchauffement de la planète ou d'une action de ce réchauffement qui provoque aussi des courants, etc. J'en sais rien.
Est-ce qu'on sait?
Donc moi, je me suis dit, je vais le faire par ordinateur, comme ça, ce sera plus simple.
Voilà. Donc ça, c'est déjà réglé. Ce côté donc de cette dictature européenne, elle est pour vous éminente. Elle est possible. Elle est crédible. Parce qu'on a déjà du mal à construire une Europe positive.
Mais justement, l'idée,
peut-être que
dans le premier tome, c'est le père y rend catastrophé un jour en disant voilà, ça y est, ce qui devait arriver est arrivé. C'est-à-dire que dans toute l'Europe, les gens n'ont pas voté pour des raisons X et Y dans leur pays. Et puis il y a un type qui est arrivé en disant bah attendez, vous voulez pas voter, il y a pas de problème, moi je vais m'occuper de tout, vous n'aurez rien à faire quoi. Je vous fournis du clé en main. Et il a fourni du clé en main. C'est-à-dire que les gens se sont dit, ah bah ouais, c'est super, il y a un mec qui va s'occuper de tout. Et il s'est occupé de tout, mais pas comme on l'attendait, quoi.
Évidemment, comme tout dictateur qui se respecte. On est jusqu'à 16h sur France Bleu Armorique avec nos invités, Jean-Luc Le Pogam et puis également côté BD, pardon. Dal Mythos, Jean-Luc Le Pogam avec nous, Les Manges Rêves à découvrir. Et le dernier tome, Le Miroir du Rat, il vient de sortir il y a tout juste quelques semaines.
Non, 15 jours.
15 jours, donc voilà. 2 semaines.
C'est... Voilà, deux, oui, quelques semaines.
Non, voilà. On va dire. Et c'est vrai que Bernard, on s'intéresse hein, à ce.
Ah ben moi, ça m'éveille beaucoup d'écho. Ça me fait penser un peu à la bande dessinée de Neige, là, de Condor. Ah, mais je voyais que vous n'avez pas cette série-là.
Ouais, tout à fait.
Et la question que je posais à Jean-Luc, c'était de savoir si on pouvait lire ce livre-là d'emblée, comme ça, sans connaître la saga. Et la réponse est qu'il valait mieux lire de façon chronologique. Mais comme je vais le conseiller à mes lecteurs, j'ai intérêt à connaître tous les arguments. Voilà, que chaque épisode peut se lire indépendamment.
Alors c'est
non, mais qu'il vaut mieux.
Ouais, enfin non, je dirais pas ça. Il y a un premier cycle qui s'est terminé avec la sortie du numéro 3 et du numéro 4 qui s'appelle Tombe Mort, Tombe Mort 1 et Tombe Mort 2. Voilà, ça fait un cycle. Donc là, on peut pas commencer par le deuxième, on peut pas commencer par le troisième ni par le quatrième. Il faut se taper les je suis désolé.
Non mais
il faut se taper les quatre.
Et en même par temps, contre, on peut rentrer dedans quand même.
Ouais, voilà. Par contre, avec l'aide du site, on peut commencer par le quatrième parce que le quatrième on s'est débrouillé, comme on débute un nouveau cycle, on a eu l'idée de commencer ce tome par un résumé du premier. Donc effectivement, alors maintenant, je pense que avec l'aide du site, on peut se plonger dans l'univers. Et puis
c'est d'une fluidité. C'est vrai qu'on est un peu dans la BD. On voit bien les images. Et puis alors effectivement, Iwan, Thibaut, Mélanie, c'est les héros qu'on suit depuis le début. Et bon, bah ils grandissent, mais c'est vrai que ça reste toujours quelque chose d'un petit peu discret. Et on voit quand même toute cette résistance qui se réfugie. Mais je vais pas vous raconter.
Puis il y a la maturité aussi qui arrive. Je pense que ça fait changer beaucoup de choses, ça fait réfléchir. Et puis, parce qu'en fait, dans le troisième et le quatrième tome, ils mangent vraiment très chaud et ils vont se retrouver seuls. Je veux pas dévoiler ce qui s'est passé, mais j'ai voulu aussi, à la fin de ce premier cycle, un petit peu brûler toutes les cartouches que j'avais pour repartir sur quelque chose de neuf. C'est-à-dire me déshabiller à moins 50, c'est vrai que c'est pas forcément facile, mais l'idée c'était de pas s'engager dans une série qui allait durer 50 tomes avec les cataskis, les motoneiges. Là on a changé un petit peu, on est sur des aéroglisseurs.
Voilà. Et puis on est des cités. Alors justement, vous le disiez là pendant qu'on écoutait Ben, l'oncle Sol, que vous évitez à tout prix tout ce qui a rapport justement au froid en ce moment, puisque c'est votre univers. C'est difficile surtout lorsque comme ça on part sur une saga de garder son cap. On sait où on va.
Je dirais pas ça. Moi, je sais pas forcément où je vais quand je commence un tome. Mon scénario est assez découpé, il est préparé effectivement. Mais je vois pour le tome 4, je savais pas une cinquantaine de pages avant la fin comment ça allait se terminer exactement. J'avais une idée, voilà. Et donc, on avance. On avance. Voilà, c'est ça qui est plaisant aussi. La série se nourrit de l'actualité. Dans le tome 4, on parle beaucoup des vaccins de Madame Bachelot.
Ouais, mais même là, on les retrouve au début, puisqu'il y a les doses qui sont confisquées.
Qui circulent ça circule sous le manteau.
Les messages du pouvoir qui sont matraqués. Il faut être vigilant.
Et le pouvoir se sert des jeunes pour lutter contre d'autres jeunes qui sont résistants. Donc ils envoient des taupes dans les nids de rebelles qui vont effectivement vendre des seringues. Alors ça fait référence effectivement. On peut penser que ça fait référence à la drogue, puisque en fait ça se passe de la même façon, mais ce sont des vaccins, les vaccins de 2010 qui sont redistribués, qui sont écoulés, parce que dans ces vaccins, il n'y avait pas que le vaccin contre la grippe, il y avait aussi des particules de ce qu'on voudra, qui permettent aussi au pouvoir de suivre parfaitement, comme quand on a un portable dans la poche, comme une puce. Les gens possèdent ça dans le sang, et après on peut les repérer partout où ils sont. Et il y a une poignée, enfin une grosse poignée de gens qui ont été malins, qui ne sont pas fait vacciner en 2010.
J'en suis, par exemple. D'autant qu'on ne sait pas toujours avec certains laboratoires ce qu'il y a dedans.
Par
exemple. Surtout, ça vaudrait plus le coup. Le miroir du rat, donc, avec Jean-Luc Le Vaugame dans la série Les Mangerèves. C'est le cinquième. On pense aussi au sixième directement. Non, on pense pas.
J'ai du mal à en sortir. Enfin, en ce moment, puisqu'on, je travaille beaucoup sur la promotion de ce tome, donc effectivement, je prends des notes. J'ai toujours des carnets, des petites feuilles, des petits bouts de papier. Si je stocke, parce que là je vais absolument rencontrer par exemple des résistants, parce que le sixième va être sur la position que vont prendre ces jeunes et la scission qui va se créer dans le noyau, c'est-à-dire ceux qui vont vouloir rester dans la résistance et ceux qui vont basculer dans le terrorisme. Ouais. Et effectivement, la limite est très 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 frêle, très fragile.
On le voit presque dans l'actualité aujourd'hui.
C'est pour ça que ce cinquième tome, j'ai voulu
faire une transition.
Il se passe comme on en parlait tout de suite aussi en une nuit devant une baie vitrée. C'est Iwan en fait qui fait le bilan de tout ce qu'ils ont ramassé et ces espèces de situations post-traumatiques en fait qui nous prouvent à nous tous que on est aujourd'hui ce qu'on est parce qu'on a vécu des choses avant et c'est notre passé qui fait ce qu'on est au présent. Et donc il y a tout un retour sur la baston qui a eu lieu à Tombe-Mort, là où il s'est passé énormément de choses à la fin du quatrième tome, et leur retour vers le nid rebelle en fait qui s'appelle Taïfa.
Ouais.
Taïfa qui signifie en berbère clan rebelle, enfant révolté, etc. Et donc ils vont revenir vers cet endroit, rejoindre les ados qu'ils avaient déjà rencontrés sur l'allée, qui leur avaient expliqué que beaucoup de choses qui les avaient fait d'ailleurs grandir, c'est-à-dire que par exemple il y a un système internet qui est en train de se mettre en place, un nouveau système internet qui s'appelle Freenet et qui va pirater en fait l'ancien système qui est surveillé par tous les gouvernements. Donc voilà. Et quand on entend dans certains pays qu'on a coupé Internet, qu'ils sachent qu'il y a toujours moyen d'en créer un autre.
Voilà, donc c'est le message comme ça délivré. Alors c'est vrai que ça se puise dans l'actualité. Le sixième, il peut partir un peu plus.
Il peut partir très en vrille, c'est évident. Je me sens un petit peu comme en attente, c'est-à-dire je quitte pas, j'ai toujours ma petite lumière en veille, je suis dans le navire, j'avance avec l'œil à côté, moi parce que je suis aussi sur un autre roman en ce moment qui n'aura rien à voir avec les mange-rêves, qui aura à voir avec le rêve aussi, c'est un petit peu une histoire sur les gens qui ont tout et qui se retrouvent avec rien, ceux qui ont rien qui se retrouvent avec tout, et dont les vies vont se rencontrer par un hasard complètement curieux, mais c'est vrai que j'ai toujours ma petite lumière, je quitte pas mes mange-rêves, je crois qu'on peut pas, d'ailleurs le dernier tome, là j'ai fini, j'étais très mal. Ouais. Parce qu'en plus j'étais en retard par rapport à la maison d'édition et on s'était fixé une date et donc j'étais très en retard parce que c'est un livre qu'en fait qui tourne au ralenti. Il y a des poussées de tension et on est devant cette baie vitrée pendant très longtemps, puis tout d'un coup paf, il y a un flashback sur ce qu'ils ont vécu avant, donc on est à 250 à l'heure sur les aéroglisseurs et hop on se retrouve sur la baie vitrée pour une réflexion avec un personnage qui se retrouve en fait à pleurer à l'intérieur de lui-même. Ouais. Ses larmes se transforment en acide qui alimente tout ce qui lui bouffe la tête, en fait, quoi.
Cette façon de vivre les manges-rêves, c'est un peu votre façon, vous, d'avancer aussi avec des périodes comme ça de calme et des moments où vous vous retrouvez à 100 à l'heure.
J'ai besoin d'avoir le feu, moi, ouais. J'ai besoin, mais bon, maintenant j'arrive à 50 balais passés, donc j'essaye de calmer le feu, d'anticiper des choses. Alors qu'avant, c'est vrai que c'était un peu la folie, quoi. Mais même si on essaye d'anticiper, on peut pas tout anticiper.
Jean-Luc, donc, il y a eu signature, c'était sur Fougères aujourd'hui.
Non, Fougères, j'étais dans un lycée hier, avec des terminales qui étaient fort sympathiques. D'ailleurs, on s'est bien marré. Et c'est rigolo, il y a un élève qui a repris parce que dans le tome 3, il y a un slam. Il y a beaucoup de références musicales dans mes livres, j'ai pas pu m'en empêcher.
Après, il nous dit qu'il a 50 ans, on va pas le croire.
Mais si. et il y a un gamin, en terminale, on n'est plus un gamin, qui est arrivé, qui nous a sorti le slam. Ils avaient préparé avec la prof, ils avaient été à la pêche d'une musique et tout. Ça a été un grand, grand, grand moment. Donc moi, je suis intervenu dans cette classe. À la fin, ça s'est terminé, en concert, quoi. C'était vraiment super.
Voilà, belle intervention. Bel échange.
Ce matin, j'ai dédicacé effectivement à Yfray dans une librairie qui s'appelle Lecture Vagabonde.
Voilà, pas d'autres signatures sur la région rennaise.
Ouais, région rennaise, je sais plus. Pour ça, il faut se rendre sur le site.
Voilà, justement, c'est ce que je voulais également donner, le site internet Jean-Luc Le Pogam, car vraiment, enfin, en tout cas, quand on tape Jean-Luc Le Pogam, vu que c'était bien référencé, donc joli travail. Je me disais, et en même temps, je pense que c'est pas nécessaire, que des illustrations, ça pourrait bien aller parce qu'on a envie de penser à une BD. Et en même temps, non, parce qu'on les imagine tellement, ces héros, ils sont tellement maintenant bien campés que ce serait peut-être dommage et difficile de
faire apparaître. C'est vrai que il y a des tas de choses qui me sont arrivées, parce que là, j'étais au Salon de Paris il y a une quinzaine de jours, ou trois semaines, je sais plus, il y a pas longtemps. Ouais. Et il y a eu des contacts comme ça au niveau cinéma, il y a des contacts au niveau BD qui se mettent en place. Il m'arrive plein de choses en ce moment. Donc, il n'y a pas de bois, mais je vais en toucher quand même. D'un côté, c'est vrai que ça me plairait bien. Puis d'un autre côté, c'est Mike Scott des Waterboys qui avait dit ça, que la vidéo tuait en fait l'imaginaire des gens.
C'est vrai.
Oui, ça fait longtemps.
Oui, mais je vois bien, tout à fait, je comprends.
Je trouvais ça vrai parce qu'en fait, c'est à l'époque où il y avait beaucoup de clips à la télé. Et c'est vrai que quand on écoute de la musique, on imagine des choses. Ouais. Forcément, c'est ça le domaine du rêve de l'art par rapport au rêve. Et quand on lit des bouquins, effectivement, on s'imagine des personnages, on s'imagine des décors. Et quelquefois, quand ils sont dessinés ou qu'on les retrouve au cinéma, il y a beaucoup de surprises. Alors quelquefois elles sont bonnes. Moi je me rappelle d'avoir vu, je crois que c'est Guillaume Canet qui avait fait Je vais bien, ne le dis à personne, qui avait adapté au cinéma le film le bouquin d'Arlène Coben. J'étais hyper agréablement surpris parce que ça, c'était quand même un sacré challenge, parce que Coben, ça sent quand même bien le ricain et Guillaume Canet a tourné ça en France et c'était vraiment très très fort. Et c'est vrai que souvent on entend dire que les gens sont déçus entre le livre et le cinéma. Alors c'est vrai que la série est en ce moment entre les mains d'un dessinateur, oui, je l'avoue.
Ah d'accord, j'ai juste mis le doigt comme ça, parce que c'est vrai que d'un côté on a envie, d'un autre on se dit aussi que on a tellement des belles images en lisant cette série que c'est peut-être pas nécessaire, mais bon, donc affaire à suivre.
Voilà, on va dire comme ça.
Merci en tout cas Jean-Luc Le Pogam d'avoir été des nôtres pendant cette petite heure pour les manger.
Merci de m'avoir reçu, c'était très bien.
Voilà, donc on vous invite à aller voir le site internet aussi pour avoir un petit peu les clés d'entrée si on a envie de commencer. On les trouve tous.
Oui. Si vous les trouvez pas, vous les commandez, le livre vous acheminera le bouquin. Mais par rapport au site, effectivement, pour y revenir, c'est vrai qu'on se retrouve plongé dans dans l'univers. Mmh, il y a des photos de la Bretagne en 2024. Ouais, je suis le seul à détenir sous la neige à moins 20 ou moins 30. C'est assez marrant.
Bon prévisionniste, en tout cas. Même si c'est pas tout à fait naturel, ce froid.
On verra.
Qui arrive. Mais bon, c'est une autre histoire. Merci beaucoup pour cette venue. Et puis, merci comme d'habitude à Bernard. On n'a pas de salon immédiat, hein, sur la BD.
Si. Perros Guirec.
Ah oui, Perros Guirec.
Perros Guirec, je crois que c'est tout début mai.
Tout début mai, donc on aura l'occasion d'y revenir d'ici là. En tout cas, évidemment, n'hésitez pas à visiter nos libraires, nos librairies, et enfin, notamment, pour tout ce qui concerne ces excellents ouvrages. Merci messieurs, et très bon week-end.
Merci beaucoup.
Au revoir.